Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux!
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot!
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
Ça m'est arrivé d'appeler ma mère à 3h du matin pour lui dire « Est-ce que tu peux prendre un vol à 14h ?» Passe à la boîte de loc récupérer des optiques et tu viens me rejoindre en Tanzanie. Promis, je te paye un safari quand t'arrives.
Ce podcast vous est présenté par Lightyshare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur lightyshare.com.
On s'est retrouvé seul sur cet immense glacier tout plat en Alaska. On s'est mis une petite musique sur une enceinte, voilà, et puis on a sorti un téléphone, on a fait une petite vidéo, une petite choré sur les Beach Boys. C'est aussi pour ces moments-là qu'on fait du tournage.
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Moteur ! Oh putain, moteur !
Bonjour Julien.
Salut Jonathan.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast.
Je suis
ravi de t'avoir sur cette première saison du podcast. Tu es principalement chef opérateur et comme tu le dis, de 50 à moins 35 degrés, des hôtels 5 étoiles des Seychelles ou hamacs humides de l'Amazonie avec un kilo de matériel ou quelques dizaines sur le dos, tu exerces ce métier avec la même volonté et le même but, celui de capter la meilleure image qui soit. Que ce soit pour Pékin Express ou les nombreux documentaires diffusés sur Planète, France Télévisions ou Seasons, ton travail de chef opérateur, chef multicam, OPV ou même pilote de drone t'a amené à voyager aux quatre coins du monde pour capturer des images qui font rêver. Sur ton compte Instagram, ta description m'a d'ailleurs fait sourire, tu y écris « Pour le travail, je voyage et prends des photos, imagine ce que je fais pour mes vacances ».
Exactement. Alors, la même chose en fait, c'est ça.
Alors qu'est-ce que tu fais pour tes vacances?
Et ben, c'est exactement ça, je voyage et je prends des photos.
Ouais.
D'ailleurs, pendant mes vacances, je prends des photos et pendant mon travail, je fais principalement des vidéos. Ça me permet un peu d'être... C'est mes vacances à moi, quoi. Voilà, faire de la photo et voyager, toujours, toujours, toujours.
Parce qu'il me semble que quand tu tournes justement sur tes projets, tu es suivi souvent par Adrien Boucher.
Alors Adrien, on a une collaboration qui date de maintenant 4-5 ans. On se connaissait avant, mais on n'avait pas trop travaillé ensemble. Et puis, on est ensemble depuis quelques temps. On s'appelle mutuellement sur nos différents projets. Et lui, c'est un excellent photographe, donc j'essaye de prendre absolument tout ce que je peux pour, comme technique et surtout derrière en post-prod photo où je ne suis pas encore très très bon, mais pour le coup, j'apprends beaucoup de lui. Ouais.
Ah, j'imagine, j'ai vu un peu son Instagram, et assez impressionnant là, sur le dernier projet que vous avez fait. Mais on y reviendra après, je ne vais pas sauter d'étape. Moi, la première question que je me pose, c'est un petit peu comment tu en es venu à ce métier-là? Comment tu es devenu chef opérateur? C'est quoi un peu tes premiers amours d'image, on va dire?
Alors, ça fait très longtemps, en fait, c'est quand j'étais assez petit, ça doit faire, j'avais peut-être 12 ou 13 ans. En fait, avant, je voulais faire vétérinaire, comme beaucoup, beaucoup d'enfants. Et en grandissant et en m'apercevant que j'étais pas très bon à l'école et que j'aimais pas trop ça, je me suis dit, bah tiens, il y a des documentaires animaliers que j'adore à la télé. Ça peut être une super occasion d'être au contact des animaux et en même temps d'éviter 7 ans d'études pour y arriver. Donc, du coup, je me suis tranquillement orienté là-dessus. Mon père travaillait aussi dans la télé, donc je connaissais les métiers de l'audiovisuel et c'était relativement facile pour moi d'imaginer faire ça. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ça m'est venu comme ça pour faire du documentaire animalier et de la caméra. C'était vraiment mon truc. Je voulais faire des images d'animaux. C'est ça qui me poussait, quoi. Donc petit à petit, bon, j'ai continué à faire collège, lycée comme tout le monde et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire mes premiers tournages, mes premiers plateaux télé. C'était très loin de l'animalier. Mais petit à petit, j'ai réussi à rentrer dans le milieu du documentaire et du magazine.
Ça veut dire que tu es rentré dans ce milieu-là sans forcément passer par une école, l'ECAR, l'ESRA, les écoles dont on parle aujourd'hui?
Complètement, en fait, j'avais fait le concours d'entrée de l'ESRA,
ouais.
Mais j'ai pas eu le bac. Donc du coup, ça marchait pas.
J'ai eu le même problème, je vois tout à fait de quoi tu parles.
Et du coup, j'ai commencé à travailler sur des plateaux, pas très loin, à Paris, boulevard Pérère, sur des émissions politiques. Très très loin du documentaire animalier. Okay. Hein,
c'est d'autres genres d'animaux. Quoi.
Voilà, c'est ouais. Ça. Mais en même temps, ça permettait d'installer. J'étais vraiment la petite main, quoi. Installer le plateau, aider à la lumière. Ça m'a beaucoup appris à gérer les projos, à gérer la lumière, comment mettre en avant des parties de décor tout en masquant les cadreurs et tout ça. Vraiment, le travail de la lumière a été assez important à cette période. Sistana, c'était vraiment chouette. Et petit à petit, après un an de studio, j'ai eu l'occasion d'entrer dans l'émission Échappée Belle en assistant de production.
Okay.
Et là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient du documentaire. Et surtout, ça me faisait voyager. Donc voilà.
Du coup, c'était quoi ton premier tournage de documentaire animalier ?
Ah, mon premier tournage de documentaire animalier, le tout premier, ça remonte encore avant ça. J'avais fait un stage, je devais avoir 15 ans, je pense, avec Laurent Charbonnier, qui est un des chefs op animaliers, d'ailleurs, qui a un film en ce moment qui s'appelle Le Chêne, qui est vraiment, pour le documentaire animalier français, c'est la référence, une des grandes références. Et je l'avais accompagné une semaine, 10 jours chez lui, à filmer les cerfs dans la forêt, les sangliers, avec une caméra 35 mm, donc c'était encore autre chose. Donc ça a été vraiment le premier documentaire animalier sur lequel je me suis retrouvé. C'est un tournage pour les animaux amoureux à l'époque, sorti en cinéma. Et alors après, je me suis rapidement éloigné du documentaire animalier, parce que j'étais plutôt dans du documentaire autre, de voyage, de découverte, d'histoire, politique et autres.
Et du coup, tout ça, c'était en tant qu'OPV?
Alors non, tout ça, c'était en tant qu'assistant. Tout ça, au début, ça a vraiment démarré en tant qu'assistant, assistant de production, puis assistant caméra, réalisation.
Donc assistant de production, donc on n'est même pas encore sur la technique vraiment.
Alors ouais, après, c'est des petits tournages, donc on était vraiment un assistant pour tout le monde. Okay. Donc l'assistant, il gère aussi bien l'enveloppe régie pour payer les restaurants que la mise en charge des batteries le soir. Et voilà, c'était un peu tout. Il conduisait la voiture. Enfin, voilà, j'ai couvert un peu tout ça.
On apprend sur le tas, quoi.
Complètement, exactement. Okay. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens, d'ailleurs, qui m'ont très bien expliqué, très bien formé. Donc ça, je peux vraiment les remercier pour ça, parce que ça m'a vraiment servi. Mais je savais toujours, dans cette optique, de faire de la caméra. Donc j'étais toujours très attiré par la caméra. J'ai posé tout le temps des questions. Dès qu'il y avait 2 minutes, je prenais la caméra, dès qu'elle n'était pas utilisée, pour faire des plans. Ça a été vraiment des supers opportunités. Et c'est comme ça que je suis vraiment arrivé dans la caméra. Et de fil en aiguille, on m'a confié des projets à la caméra. Et c'est comme ça que... Du coup, je suis devenu vraiment chef-op à quasiment à plein temps.
Ok. C'est vraiment voilà, de petits projets en petits projets, de différents postes où on commence à te faire confiance. Et,
ouais, c'est ça. Voilà, c'est des boîtes de prod dans lesquelles on reste 3, 4 ans. Et puis, petit à petit, un jour, il y a... Mon premier travail à la caméra, c'était sur le studio. Un mec malade, un jour, il fallait un caméraman pour le remplacer. Il y avait moi qui étais là, et donc on m'a mis derrière le plan large et le plus simple. Mais voilà, c'était la première fois que j'étais derrière la caméra, quoi. Donc, c'est toujours comme ça, c'est des opportunités, des rencontres, et ça finit par avancer.
Trop bien. comme quoi, voilà, on n'est pas obligé de suivre une formation chef opérateur pour devenir chef opérateur.
Non, il y a différents parcours. Puis je pense que la formation, elles sont importantes. Hein. C'est clair que ceux qui font des écoles... C'est un autre parcours, c'est autre chose. On apprend aussi plein de choses. Mais pour moi, j'ai toujours la sensation que l'expérience de terrain, c'est quelque chose qui va être difficile à retranscrire dans un cours. Mmh. C'est pour ça que je pense que les écoles qui font des projets en dehors, qui vont vraiment tourner avec des caméras, qui font le montage derrière, ça apporte aussi d'autres compétences et d'autres savoir-faire qu'on n'a pas forcément quand on est juste dans un amphi à écouter un prof. Les deux sont importants. Il faut avoir une partie théorique, il faut connaître les grands films, il faut savoir analyser une image, savoir analyser un film, mais l'expérience de terrain, elle est hyper importante.
Mmh, c'est même sûrement la plus importante.
C'est
pas peut-être mieux de ne pas comprendre comment la lumière transperce une optique que se dire ça c'est beau et vraiment réussir à faire de belles images, non ?
Oui, c'est ça. J'ai toujours cette référence pour la lumière. En fait, j'étais allé visiter les studios de Pixar à San Francisco et il y a un Français là-bas qui s'appelle Jean-Claude Calage, qui est un des responsables de la lumière. Je ne sais pas s'il y a encore, d'ailleurs. Mais en fait, il m'avait bien expliqué pour le film Cars, par exemple, qu'il faisait vraiment des voyages, en fait, pour ceux qui allaient faire la lumière derrière des films. Ils faisaient vraiment des voyages. Ils allaient dans des entrepôts où il y avait des voitures. Ils analysaient la lumière, comment ça se réfléchissait sur les différentes voitures, à travers telle fenêtre. C'est du terrain. C'est du terrain. Ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer autant qu'on veut, tant qu'on ne l'a pas vu. Ça va être compliqué de vraiment l'imprimer dans le cerveau.
Je suis bien d'accord. Du coup, toi, aujourd'hui, tu te présentes comme chef opérateur, étalonneur, directeur technique, pilote de drone.
Alors, étalonneur, plus vraiment. Étalonneur, j'ai fait la formation d'étalonnage. C'était un super complément pour le chef-op. Je pense que tous les chefs-op devraient vraiment faire une formation d'étalonnage pour comprendre comment ça se passe.
C'est la question que je t'ai posée tout à l'heure en off. C'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on est chef opérateur, on ne serait pas un peu obligé d'être étalonneur pour vraiment suivre le chemin de A à Z?
Moi, je pense qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, comprendre l'étalonnage, savoir comment un signal vidéo se manipule, se transforme, se modifie, se dégrade, parce que c'est l'aboutissement de l'image. On va faire une image, on va faire la composition, on va faire le cadre, on va faire tous les réglages qu'on veut dans la caméra, mais à la fin, l'étalonnage va donner les émotions et tout ce qui va transparaître au sein de l'image. Donc c'est hyper important de bien comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir donner aussi les bonnes instructions à l'étalonneur. On n'est pas obligé de manipuler, on n'est pas obligé d'être technicien, d'être étalonneur à proprement parler. Moi, je sais que j'aime beaucoup la technique, j'aime beaucoup aussi le travail sur l'ordinateur, c'est quelque chose qui me parle. Autant ça me dérange moins d'étalonner mes images, même si je m'énerve souvent contre moi-même, Mais quand j'étalonne les images des autres, je m'énerve aussi souvent contre les images des autres. Et en fait, c'est pour ça que je me présente plus trop comme étalonneur. Parce que je passe beaucoup de temps et de manipulation. Et autant, je peux, voilà, je m'énerve contre moi-même et j'aime pas trop m'énerver contre les autres. Donc, je me cantonne à ça. Mais oui, c'est hyper important. Pour moi, aujourd'hui, un chef-op doit maîtriser tout le workflow du début, du choix du matériel, jusqu'au rendu final de l'image. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, je pense.
Alors justement, ça sera une de mes prochaines questions et ça m'emmène au point suivant. Au début de ta carrière, tu as bossé sur des gros projets télé. Donc, tu as bossé sur Pékin Express notamment, c'est celui auquel je pense le plus. Comment on en vient à bosser sur ce genre de projet qui allie un petit peu le voyage et en même temps un côté technique très compliqué?
Bah alors ça, justement, c'est venu assez tard dans ma carrière. Ah. En fait, comme émission au début de carrière, j'ai eu Échappée Belle, qui est quand même une grosse émission, et beaucoup de petits documentaires d'ailleurs de taille moyenne, qui étaient sur le voyage et la découverte. Et Pékin Express, c'est un peu l'alliance, en fait. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont appelé. En fait, j'ai travaillé pour la société belge qui a inventé le concept de Pékin Express. J'ai pas travaillé pour la société de production française qui fait le Pékin Express français. J'ai travaillé pour les différents Pékin Express de toute l'Europe. J'ai fait les Belges, j'ai fait les Hongrois, j'ai fait les Polonais, les Italiens. Donc en fait, ils sont venus me chercher parce que, un, j'avais une expérience effectivement de tournage à l'étranger, de voyage, d'adaptabilité en fait, et aussi l'expertise technique, parce que j'ai travaillé très succinctement chez un loueur traditionnel, hein, pas comme Mighty Share, mais et on s'est rencontrés là-bas en fait. Donc ils savaient que j'avais la connaissance technique de ce matériel et en même temps l'expérience de tournage dans des conditions à l'étranger, parfois difficile.
Et alors, justement, quand on part sur des tournages comme ça, sur quel type de matériel on part? Quand on doit équiper, je crois que tu avais 8 caméramans à peu près, c'est quoi ces équipes?
Alors,
on a
8 équipes, donc un caméraman par équipe, on a ensuite 4 caméramans dans le multicaméra, on a un caméraman sur l'animateur. En tout, c'est entre 15 et 18 caméras à peu près, un Pékin Express. Pareil pour un Top Chef d'ailleurs, mais c'est à peu près, c'est ça. On tourne autour de 17-18 caméras. Le matériel, c'est vraiment du matériel broadcast, des grosses caméras, des grosses XD cam, caméras d'épaule, parce que, un, c'est costaud, deux, c'est flexible, ça me permet d'avoir une optique qui fait à peu près tout. Pour un caméraman, il n'a pas besoin de changer des optiques.
Évidemment. Ouais.
C'est solide, hein, voilà, il pleut, il vente, il y a du sable, les caméras, elles ne bougent pas trop. Et pour une émission comme Pékin Express, c'est des caméras qui font très télé. Et comme on demande à des candidats d'aller chez des gens, les gens sont souvent assez impressionnés par cette caméra qui fait très... gros show et très grosse télé. Et donc, en fait, ça facilite aussi, quelque part, la relation entre les candidats et les locaux. Par exemple, Pékin Express, on a des fois réfléchi à changer les caméras, mais c'était vraiment une des choses qui sont revenues. C'est plus facile avec des grosses caméras.
Ouais, tu serais peut-être moins pris au sérieux si le candidat est suivi avec un A7S II, où là, on se dit, en fait, c'est juste un touriste.
Ou un YouTuber.
Là, on sait tout de suite qu'il y a une grosse prod, c'est un perchman derrière, je ne sais pas comment ça se passe.
C'est pour ça que
ce
matériel-là a été choisi, entre autres, mais c'est une condition importante.
Et alors, du coup, d'un point de vue logistique, comment tu gères ce matériel-là? Tu as un départ de France, j'imagine.
Alors oui,
enfin, de Belgique.
Pour Pékin, c'est un départ de France. C'est un loueur français qui loue tout le matériel pour Pékin. Alors on a forcément une partie préparation par email, des échanges techniques avec entre moi, le producteur, la société de location, pour mettre en place une liste. Donc ça se fait purement sur un tableau Excel et par échange de mails. Ensuite, on a à peu près 2 à 3 jours de préparation matérielle chez le loueur. Donc là, on teste absolument tout. On vérifie qu'on a bien le bon équipement. On vérifie qu'on a bien fait les bons choix techniques. Qu'on ne part pas avec un matériel qui est à moitié défectueux. Donc, on fait vraiment toute la liste. Et ensuite, ça part en fret, cargo, plusieurs semaines à l'avance. Enfin, cargo, c'est de l'aérien, mais principalement de l'aérien, mais ça part plusieurs semaines à l'avance.
Et alors, du coup, comment tu gères l'imprévu? Parce que là, j'imagine que tu pars, tu ne peux pas te permettre d'avoir 3 caméras qui tombent en rade et ne pas avoir de spare. Donc,
On a du spare.
Ça veut dire que tu pars avec tout en double?
Pas tout en double, mais souvent, donc, on a à peu près 15-16 unités, on en rajoute toujours une ou deux pour avoir de la marge, ça c'est la base. Après ça nous est arrivé d'avoir des grosses casses, d'avoir plus de casses de prévu, parce que les conditions, il suffit d'une après-midi absolument cataclysmique au niveau de la météo et que tous les cadreurs soient à l'arrière du pick-up, il y a 3 caméras qui flanchent quoi, forcément. Donc ça m'est arrivé d'appeler ma mère à 3h du matin pour lui dire: est-ce que tu peux prendre un vol à 14h avec du matos, prends peu de choses dans ta valise. C'était pour la Tanzanie d'ailleurs, donc elle est venue m'apporter 3 optiques.
Vraiment, ta mère?
Ouais, vraiment.
C'était pour la blague, mais en fait,
non, pas du tout. Je l'ai appelé vraiment à 3h du matin en lui disant, est-ce que tu peux prendre un vol à 14h? Faut que tu passes à la boîte de loc et récupérer des optiques.
4X des cams et des 100-300.
Voilà, c'est ça. Et tu viens me rejoindre en Tanzanie. Promis, je te paye un safari quand t'arrives. Et ça a marché.
J'adore. Ça, c'est assez dingue, ça, quand même.
Ouais, j'ai fait la même pour mon frère aux Philippines aussi.
En fait, ça a du bon d'être dans ta famille.
Ouais,
parce que
c'est pas mal.
Un jour ou l'autre, tu finiras par voyager pour t'apporter du matos. Quoi.
C'est ça.
J'adore. Donc, du coup, voilà, tu m'as un peu parlé des caméras sur Pékin, les optiques. Vous bossez un peu avec des retransmissions HF. Comment ça se passe pour les réals, je sais pas.
On a des HF. Hein. On a changé au fur et à mesure des années pour évoluer, parce que là aussi, il y a eu des progrès considérables. On est parti du bon Titan SD, bien comme il faut, à peut-être du Teradek. On est vraiment passé par pas mal de systèmes. Il n'y a pas de système parfait dans la HF, c'est toujours pareil. Il y a toujours des inconvénients et des bons points. Mais oui, on a aussi un système HF, on a une régie pour les jeux. Alors, c'est des petits écrans ou un écran splitté, quadé, où on vient brancher tous nos retours dessus. Ça dépend vraiment des lieux. On a eu énormément de problèmes sur la HF, par exemple, en plein centre-ville de Pékin, quand on a fait le plateau de fin de justement Pékin Express il y a 2-3 ans, où ça a été un vrai enfer parce qu'il y a trop de fréquences partout et ça nous a vraiment posé des problèmes. C'est sûr que dans un champ de thé au Sri Lanka, ça va beaucoup mieux. Mais ouais, on a système HF, on a des très longues focales, on a des 40 fois, des 42 fois, on a des grands angles. Sur certains programmes, on a aussi une grue. Ça dépend des.
Pour les plateaux.
Pour les plateaux, voilà, ça dépend vraiment après des. Et des programmes. Et puis, pour Pékin Express, souvent, les plateaux de fin, on loue une grue sur place. Parce qu'on ne la trimballe pas tout le long. Mais...
Ouais, j'imagine que là, au bout d'un moment, tu ne peux pas tout emmener en cargo.
Non.
Ça devient compliqué. Ouais.
Non.
En dehors de Pékin Express, du coup, tu as pu faire beaucoup de projets à l'étranger.
Oui, principalement.
C'est clairement le truc que tu adores, c'est ça?
Ouais.
Moi, il y a une question, alors, c'est pure curiosité. Pourquoi autant de documentaires à l'étranger? Est-ce que tu en as fait en France?
J'en ai fait en France. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, ça m'a fait vraiment plaisir de tourner. J'ai fait une petite série en France pour la chaîne Voyage il y a quelques années. C'était assez chouette parce que je connaissais mieux certains pays étrangers que la France, en fait, force. C'était vraiment le Maroc. J'y étais allé 6 ou 7 fois. J'avais couvert vraiment tout le pays. Et la France, il y a des coins où j'étais jamais allé. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire une petite série sur de la découverte, un peu sur les lieux annexes qui ne sont pas forcément dans les guides touristiques. C'était assez drôle et en même temps, c'est très beau. On a un très beau pays. On a des gens qui sont incroyables. Ça fait des super sujets, des super images. Mais ouais,
c'est moins compliqué d'un point de vue logistique pour toi.
Oui, ouais, c'est sûr. Même si, après, les tournages à l'étranger ne sont pas forcément compliqués d'un point de vue logistique. Ça dépend des pays, ça dépend de comment on le fait et des conditions sur place. Mais c'est vrai que oui, là, c'est facile, on prend la voiture. Voilà, on n'avait pas d'avion à prendre, on prend la voiture.
C'est plus simple. Je sais que tu reviens d'Arabie Saoudite sur un gros documentaire réalisé par Fabien Lemaire, avec notamment le chef opérateur Gavin Turtston.
Gavin.
Est-ce que
qui est un anglais, du coup.
Tu peux nous en dire quelques mots
Alors c'est un projet qui est arrivé un petit peu complètement par hasard pour tout le monde. Hein. C'est vraiment... C'est un projet qui a été monté par des Saoudiens, une boîte de prod saoudienne là-bas qui a vendu un documentaire animalier, enfin une série de documentaires animaliers, c'est 5 fois 20 minutes, au gouvernement, au ministère des médias. C'est le ministère des médias qui a acheté. Et du coup, ils ont cherché des réalisateurs, ils ont appelé Fabien, que je connais depuis quelques années, on a fait 2-3 petits trucs ensemble, et surtout, on parle beaucoup de documentaires animaliers, lui et moi, parce qu'on est deux grands fans de documentaires animaliers. Et donc Fabien m'a appelé pour me demander si je voulais participer et faire donc chef-op et drone. Au fil des meetings, en fait, il y a Gavin qui est arrivé un peu comme ça. On ne savait pas qu'il faisait partie du projet. Alors Gavin, pour moi, c'est une référence dans le documentaire.
Ouais, il faut préciser pour ceux qui ne savent pas forcément qui est Gavin.
C'est ça, Gavin, c'est une référence dans le documentaire animalier anglais. C'est quelqu'un qui bosse depuis 30 ou 35 ans avec David Attenborough notamment et qui a fait beaucoup, beaucoup de documentaires animaliers. Il a fait Our Planet, il a fait Blue Planet, il a gagné encore un Emmy l'année dernière. Enfin, c'est une pointure du documentaire animalier. Pour moi, c'est une des références mondiales. Il a écrit un bouquin qui est super, d'ailleurs, sur la vie de caméraman. Donc, c'est vraiment un bouquin hyper intéressant. Donc, moi, je le connaissais au travers de tout ce qu'il avait fait. Lui, il n'avait jamais entendu parler de moi, hein, évidemment.
C'est parce qu'il n'osait pas te l'avouer.
Ouais, c'est ça, sûrement. Mais non, donc, ça a été une super rencontre. Enfin, moi, j'étais hyper impressionné, justement, de rencontrer Gavin. Et ça a été une super expérience, parce que...
Alors, comment c'est, justement, de bosser avec un chef-op de cette pointure-là? Qui est aussi rodé. Alors, avec lui,
d'habitude, c'est vrai que j'en côtoie pas non plus tous les trois matins, mais c'est vrai qu'avec lui, c'était très simple. C'est un mec extrêmement simple et surtout d'une rigueur et d'une précision professionnelle qui est incroyable. Enfin, c'est déjà vraiment un vrai technicien. C'est quelqu'un qui connaît par cœur le matériel qu'il utilise, qui va vraiment avoir des choix très précis sur la technique, qui vont faire toute la différence. Et après, il a une connaissance en plus de la faune qui est colossale. Donc en fait, il va vraiment donner des astuces et des petits conseils de tournage qui, pour moi, ont vraiment été précieux. Parce que on était dans un pays qui n'est pas facile sur le niveau animalier, où il y a très peu d'animaux, c'est très compliqué. Et ouais, tous ces conseils ont été vraiment, vraiment très, 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 très précieux.
Et alors, justement, comment ça se passe, le boulot de chef opérateur sur ce type de documentaire, en Arabie Saoudite en plus, dans des conditions météorologiques qui sont quand même assez particulières, j'imagine?
Et ben là, ça allait parce qu'il faisait plutôt doux. Voilà, ça ne montait pas au-dessus de 30 degrés. Alors qu'en été, il peut faire 50, mais justement, ça a été choisi pour ça, pour cette période-là, la période où les animaux vont plus dehors parce qu'il fait moins chaud. Nous, on pouvait travailler aussi plus facilement. Donc, au niveau des conditions, ça allait. Très peu de pluie, forcément. Donc ça, c'est toujours un bon point. Beaucoup de sable. Par contre, ça, pour le
ça,
matos,
c'est un moins bon point. Ouais.
Moins bon point. C'était nettoyage tous les soirs ou tous les deux soirs de l'intégralité des caméras, des pieds.
Surtout qu'on peut voir sur ton Instagram, moi, ça, cette photo, elle m'a beaucoup fait rire. On te voit avec une Sony Venice, un 3300 monté sur un Easy Rig au milieu d'un marché en train de filmer un vendeur de miel, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
T'es plutôt lourdement équipé pour un documentaire à l'autre bout du monde.
Ouais, alors en fait, si j'avais eu le choix, je n'aurais pas mis le 3300 sur Easy Rig, si tu veux. C'est juste que là, c'était aussi des questions de budget. Comme d'habitude, il faut s'adapter. On n'avait pas de série de petites fixes que j'aurais peut-être plutôt préféré pour ce tournage dans le marché. Voilà, on filmait de l'animalier, donc on avait des longues focales. On avait un 50 000 et un 3300 avec le doubleur qu'on peut mettre dessus. Et c'est tout. Donc en fait, en termes de... Après, on avait une FX9 avec des très larges. On avait un 16-35, etc. Mais là, j'avais que la Venice à disposition. Et donc, du coup, je l'ai fait au 3300. C'était lourd. C'était très lourd.
ça faisait très lourd. Fatigué, ça.
Ouais.
Et alors, moi, c'est vrai que je viens plus du monde de la fiction ou de la pub. J'ai pas eu l'occasion de bosser sur beaucoup de documentaires et je me pose vraiment la question sur le documentaire animalier en tant que chef op, comment on va travailler la lumière? Il me semble qu'il y a certaines personnes qui bossent un peu avec des mises en scène d'animaux, etc. Comment tu
bosses? Alors, il y a différentes écoles. On va dire qu'il y a l'école anglaise et l'école française, pour résumer grossièrement. L'école anglaise, c'est de l'animalier qui est très... Enfin, moi, je le perçois comme ça, qui est très comportemental. Donc, c'est vraiment, on s'attache à montrer l'animalier tel qu'il est dans la nature, avec le comportement qu'on va avoir en face de nous, presque intouché. Voilà, c'est un reportage. Enfin, c'est vrai, du vrai documentaire, mais c'est un peu dans les esprits de on ne touche pas, on ne prend pas parti, on laisse faire et on filme juste ce qui se passe.
C'est-à-dire que tu peux vite rester pendant 5-6 heures à attendre.
Bon, ça, les deux, c'est toujours ça. Hein. C'est de l'affût, c'est des jours d'attente, des heures d'attente, des jours d'attente. De recherche aussi, ça dépend des animaux. Des fois, il faut bouger en voiture pendant toute la journée pour essayer d'en avoir un. Des fois, c'est un affût qu'on met en place et on reste longtemps derrière. Et il y a le documentaire français qui, lui, est plus un film, en fait. C'est plus des films animaliers. C'est vraiment des animaux qui peuvent être imprégnés ou pas. Imprégnés, c'est donc dressés ou pas, mais c'est, voilà, on va plus raconter ça comme une histoire qu'on a envie de raconter. C'est vraiment un film. Alors que le documentaire, façon anglais, est plutôt sur le comportement des animaux. C'est des histoires naturelles, d'ailleurs. Ils appellent ça des documentaires d'histoire naturelle. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe dans la nature retranscrit telle qu'elle est. Bon, il y a toujours des arrangements, hein, mais c'est à peu près ça, la différence entre les deux.
Donc, c'est-à-dire que tu es 100% dans le décor naturel, à la lumière naturelle.
Ouais.
Tu n'as pas du tout d'ajout de lumière.
Principalement, les ajouts de lumière vont forcément être sur les séquences de nuit où ça va être nécessaire. Mais là, par exemple, pour le documentaire qu'on a fait en Arabie Saoudite, c'était vraiment de la lumière naturelle du début jusqu'à la fin, avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, entre 10h et 15h, la lumière, elle est vraiment, vraiment pas belle. Donc, il faut se lever tous les matins à 3h30 du mat pour faire les levées de soleil. Et voilà, et puis se coucher après le coucher de soleil pour rapidement, pour faire une bonne nuit quand même et se lever très tôt le lendemain matin.
Ok. Parce que du coup, c'est vrai que ça, il y a beaucoup de choses qui sont du coup pas maîtrisables.
Oui.
Quand on est sur ces tournages-là, comment on gère? Là, tu me dis qu'en ce moment, tu es justement sur la dérush de ce tournage.
Oui.
Comment on va gérer un petit peu cette partie où tu vas avoir deux rushs qui ne vont pas du tout avoir la même luminosité, la même lumière? Comment tu bosses derrière?
Ben, après, c'est là où est tout le travail aussi sur le terrain. C'est de savoir répartir les différentes séquences en fonction de l'intention qu'on veut donner dans la séquence, de l'idée qu'on en a, et en même temps de ce qui se passe. C'est-à-dire, quand on est dans les montagnes et qu'il fait beau, on va aller filmer les singes. Mais quand il pleut, on sait que les singes, ils vont rester dans leurs arbres, ils ne vont pas trop bouger. Donc là, on va peut-être en profiter pour justement filmer un peu plus la nature, par exemple. On va faire des timelapses de nuages qui bougent ou la pluie qui tombe sur les feuilles. Ou voilà, tout ce qui est un peu plus flore que vraiment la faune. Et quand la pluie s'en va, on va pouvoir recommencer sur la faune.
Et du coup, le fait d'être à l'école anglaise, comme tu dis, du coup, de laisser vraiment le naturel se dérouler, j'imagine que ça veut dire que tu n'as pas forcément idée de la durée que va prendre ton tournage. Comment tu t'organises là-dessus? Parce que s'il ne se passe rien pendant 3 jours, il ne se passe rien pendant 3 jours, tu ne vas pas partir?
Bah c'est ça. Oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut partir. C'est là où c'est toute la subtilité de ce genre de tournage, c'est qu'on est quand même dans des productions qui ont un budget, déjà, donc qui ne peuvent pas être extensibles à l'infini, malheureusement. On a des contraintes aussi derrière d'engagement avec d'autres tournages ou autres. Et il y a tout le monde autour. Il y a des chauffeurs. Pour faire un documentaire où on est 3 caméramans, il y a 25 personnes qui travaillent sur le projet, minimum. Donc, on ne peut pas non plus changer tous les plans comme ça tout le temps. Donc, c'est là où il faut savoir faire. Il n'y a que l'expérience qui l'amène. C'est savoir dire, bon, bah là, on arrête les frais. On passe à autre chose. On avance et on va rattraper comme on pourra ce truc-là. Ou alors, au contraire, on continue parce qu'on a des choses pas mal. Il en manque. Et on va essayer de pousser 48 heures de plus pour essayer d'avoir ce qu'il faut. Donc ça, c'est toute la subtilité de l'organisation et de la manière dont on s'organise. Il n'y a pas de règle.
Il n'y a que l'expérience qui peut...
Ouais, c'est vraiment sentir le coup, se dire, là, si j'y retourne 48 heures de plus, j'aurai ce qu'il faut ou pas. Et ça, c'est... Ouais,
c'est un lancer de dés.
C'est ça, exactement. Surtout avec l'animalier, ouais.
Ouais, bah ouais, j'imagine. Ouais. Et alors, justement, tu me dis qu'il y a 25 personnes qui bossent sur ce genre de projet. C'est-à-dire que toi, ton équipe à toi, elle est constituée de qui? T'as un assistant cam, t'as un pointeur,
C'est très variable, j'ai jamais eu de pointeur. Okay. Assistant cam, ça arrive. Après, souvent, comme je disais, dans le documentaire, on a un assistant qui couvre un petit peu plusieurs choses. Mmh. Là, sur le documentaire animalier en Arabie Saoudite, on n'avait pas d'assistant cam à proprement parler. Mais c'est Adrien Boucher, que justement, on en vient, que j'ai appelé pour gérer toute la partie aussi rush. Donc, il était un peu DIT, enfin vraiment gérer toute la partie backup le soir et tout, qui la journée était là et nous aidait aussi avec les caméras, le matériel. Aussi bien, il est très bien capable de prendre une caméra aussi pour faire des images. Il n'y a pas vraiment, on n'est pas autant cantonné qu'en fiction, par exemple, à des postes très précis, parce que l'organisation est mouvante. Donc, en fait, il faut vraiment savoir s'adapter. En fait, dans le documentaire, de manière générale, d'autant plus à l'étranger, il faut savoir s'adapter. C'est vraiment la clé d'un bon tournage.
Ouais, j'imagine, ouais. Surtout dans l'animalier.
Surtout dans l'animalier, ouais. Quand on part à l'étranger, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas le droit à l'erreur. On part avec un peu de spare, mais on ne peut pas se permettre de partir avec un matériel qui est déjà défectueux ou partiellement défectueux, qui va lâcher au bout de 3 jours. Donc, il y a vraiment une rigueur sur la préparation à avoir. Il y a aussi toute la partie douanière. Donc ça, il y a des formalités de douane très importantes. Donc, c'est des listes Excel. Enfin, je pense que je fais encore 10 ans ce métier. Je peux être comptable parce que je commence à maîtriser Excel pas trop mal pour faire les listes matérielles, justement, de douane, les carnets ATA.
C'est ça, les carnets ATA.
Les carnets ATA, voilà. Mmh. Ils sont pas tous signataires. Il y a toute la partie logistique cargo. Donc, voilà, envoyer le matériel, le récupérer au bon endroit, ouvrir toutes les malles, redispatcher le matériel. En fonction des productions, ça peut prendre plusieurs jours de remettre en ordre tout le matériel une fois arrivé. Et après, il y a la gestion du quotidien. Donc, sur des grosses émissions comme Pékin Express en itinérant ou Top Chef, il y a une maintenance du matériel qui doit être faite de manière régulière et plus ou moins régulière en fonction des conditions. Donc, c'est du nettoyage de matériel, la vérification de certains points, le nettoyage des capteurs, le nettoyage des arrières d'optique. Et puis
ça, c'est un travail que les caméramans font avec leur matériel ou c'est les assistants ou tu as une personne qui est dédiée à la maintenance de l'ensemble du parc?
Alors, les caméramans font l'entretien, on va dire, courant, c'est-à-dire nettoyage de la frontale, nettoyage de si vraiment la caméra elle est sablée, voilà, ils la nettoient, forcément. Maintenant, il y a tous des points de vérification qu'ils ne font pas forcément, ou d'ailleurs qu'on leur demande de ne pas faire, parce que ça nécessite des fois des connaissances un petit peu plus techniques, ou d'ouvrir une caméra. On ne va pas les laisser faire une ouverture de caméra sur le bord de la route au Vietnam. Donc, dans ce cas-là, ils ramènent le matériel dans un QG. Là, on se retrouve tous au bout de quelques jours. Ça finit toujours par arriver au bout de 3, 4, 5 jours. Tout le monde arrive au même endroit. Et là, il y a une grosse maintenance sur l'équipement à faire. Donc, c'est régler les problèmes qui ont été remontés, de l'entretien courant et, comme je dis, nettoyage des capteurs, par exemple. On le, Le caméraman peut le faire, mais c'est vrai qu'on a tendance à préférer le faire dans une salle un petit peu au propre, dans des bonnes conditions, plutôt qu'à la peau de chamois sur le coin de la route. Quoi.
Ouais, ça paraît plus safe.
Ouais, c'est ça.
Et justement, là, on parlait un petit peu de matos, on parlait un peu des caméras que tu utilises. Donc, tu m'as parlé de la FX9, de la Venice, tu m'as parlé un petit peu optique. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on entend beaucoup parler de tous ces petits boîtiers, des DSLR, des A7S qui ont démarré avec super. Le 5D, qui sont super. Et justement, du fait de leur simplicité de transport et d'envoi à l'étranger pour aller faire des tournages très rapides, très simplement. Toi, visiblement, tu es de l'autre côté.
Non, pas que. Enfin, vraiment, moi, je pense que être chef-op ou être technicien en audiovisuel, c'est aussi connaître un peu tous les outils qui sont à notre disposition et faire les choix. C'est vraiment faire des choix, c'est la base. C'est savoir choisir le matériel par rapport aux besoins, à la demande aussi du réalisateur qui a une ouais. idée en tête et savoir adapter en fait tous ces choix-là.
Et à quelle diffusion c'est destiné
et
aussi
Et au budget, c'est surtout ça. Oui, et puis il y a la diffusion, effectivement. Et donc, autant... par exemple, sur un Pékin Express, comme je disais, un boîtier Alpha 7S 3 sur un Ronin, c'est loin d'être le plus pratique dans les voitures, dans des conditions un petit peu rudes. C'est loin d'être le plus efficace aussi. Mais par contre, cette grosse caméra d'épaule XD Cam, ça ne va pas être la plus pratique si on veut tourner des interviews dans des petits lieux un peu jolis, un peu bien éclairés. Ce n'est pas ce qui va ressortir ni la meilleure image, ni ce qui va être le plus pratique à mettre en place.
C'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, si je ne dis pas de bêtises, ouais. vous aviez la Venice, la FX9 et un Alpha 7S.
Exactement, 3.
3, pardon.
Ouais, 3.
C'était pour cette...
On les a choisis déjà parce qu'il y avait des contraintes de codec, de format. On avait choisi de faire ça en 4K RAW. La FX9, on a mis l'Atomos. L'Alpha 7S 3, on a aussi mis un Atomos pour nous permettre de récupérer cette qualité RAW. Les Venice, elles le font nativement avec l'enregistreur. Et... L'Alpha 7 nous a apporté aussi la sensibilité, parce que la Venice, version 1, elle ne va pas très très haute. La FX9 non plus. L'Alpha 7, lui, en revanche, il a une très forte sensibilité. On peut vraiment le pousser et on l'a utilisé justement pour des passages nuit-jour, des timelapses ou des plans un peu de nuit sur du paysage. Donc en fait, tout ça, c'est savoir utiliser son matériel avec ses forces et ses faiblesses et répartir en fait le matériel comme ça.
En fonction des besoins.
C'est
ça. Et justement, toutes ces avancées techniques qu'on a aujourd'hui avec des capteurs de plus en plus grands, des poussées d'ISO qui sont de plus en plus hautes, etc., pour toi en animalier, ça doit être une vraie aire de jeu.
Pour moi, geek surtout. Parce que c'est surtout ça. Moi, j'ai un côté très geek, que ce soit dans le métier ou même en dehors. J'adore tout ce qui est technologique et je m'extasie à chaque fois de tous les progrès qu'on a fait sur tous ces appareils. Quoi. C'est fantastique. Mais ça demande un gros travail de veille technologique pour savoir ce qui se passe, pour comprendre aussi, pas juste lire la brochure du fabricant et se dire « Ah, c'est génial, ça fait tant de millions de pixels ou ça monte à tant de millions d'ISO ». C'est pas forcément... faut aller plus loin. Faut savoir comment je vais pouvoir utiliser cette technologie pour faire mon image et comment ça va me servir à aller plus loin. C'est nécessaire de savoir ça parce que aujourd'hui, si demain, quelqu'un prend un Alpha 7 S3, par exemple, et se dit « Je vais le pousser à 8000 ISO », s'il ne connaît pas la deuxième base ISO, elle est plus haute que ça, il va se limiter à ça en se disant « C'est pas trop bruité, ça passe encore », alors qu'en fait, il peut aller plus loin, il peut aller chercher plus loin et avoir encore un meilleur signal. Donc en fait, c'est nécessaire pour la créativité, pour le travail de l'image, de bien connaître les spécifications techniques, de bien connaître les limitations techniques. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller encore plus loin.
Et c'est ce qui fait partie du travail de chef opérateur.
Je trouve, ouais.
Quand tu dois choisir tes équipements et les défendre auprès d'une prod, il faut que tu saches expliquer pourquoi tu vas vouloir cette caméra, cette optique précisément.
C'est ça. Mais en fait, il y a toujours l'éternel débat chez certaines personnes, pas chez toutes, entre le... Ils disent oui, mais moi, la technique, moi, je ne m'y intéresse pas, je suis plutôt sur le côté créatif. Pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas, aujourd'hui, créer aussi sereinement que si on connaît bien la technique. Savoir bien... En fait, moi, c'est... Sur certaines caméras, sur certains modèles, c'est complètement automatique, c'est transparent en fait. Je ne réfléchis même plus à la technique. Et je peux me concentrer justement uniquement sur la partie créative. Et c'est ça qui est hyper intéressant quand on connaît bien la technique, c'est qu'on connaît les limites. Mais en connaissant les limites, on sait aussi jusqu'où on peut aller. Et en fait, on peut vraiment y aller. On peut vraiment aller au bout, aux limites de la technique pour servir la créativité en fait.
Et c'est vrai qu'avec ces nouveaux boîtiers, il y a eu souvent l'adage de dire... Voilà, bah, si on veut faire un film, il te suffit juste d'une caméra, peu importe la caméra, tu n'as pas besoin de moyens forcément pour réaliser ce que tu veux réaliser. Mais au final, ça, ce n'est pas forcément dissocié de... Ça ne t'empêche pas de connaître la technique pour autant.
Non, parce que de toute façon, ces boîtiers-là, ils ont aussi des limitations techniques, ils ont aussi des caractéristiques qu'il faut respecter, qu'il faut connaître. Là où, aujourd'hui, c'est vrai que... Il n'y a plus l'excuse de « j'ai pas un gros budget, donc j'ai une image qui n'est pas de très bonne qualité ». C'est ça la différence. Mmh. Aujourd'hui, n'importe qui, pour une petite production, peut se permettre d'avoir une image de très bonne qualité. Après, ça dépend où on place le curseur. Est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde de filmer en 4K ? Je ne suis pas sûr aujourd'hui, ça dépend de la diffusion derrière. Et de la durée de vie aussi du film. Il y a des films qui vont avoir une durée de vie d'un ou deux ans, qui sont diffusés sur un format HD aujourd'hui sur des chaînes traditionnelles. Est-ce que ça sert à quelque chose de les produire en 4K ? Peut-être pas. Par contre, si le film a vocation à rester peut-être dans 10 ans, il y a peut-être un intérêt à le produire en 4K pour le futur. Aujourd'hui, ça, c'est accessible pour quasiment tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel téléphone filme en 4K. Maintenant, il faut juste savoir où est la limite et où la placer, où placer le barème, en fait, où placer le curseur.
Et ouais, qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que si c'est pour diffuser sur un téléphone...
Oui, c'est ça. Mais aussi, en fait, les spécifications... technique, c'est pas du tout ce qui va donner la qualité d'une image. Le travail de la lumière, ça va être beaucoup plus important que le nombre de mégapixels qu'on va avoir sur un capteur. L'émotion qu'on va faire passer, que ce soit avec des acteurs ou avec même un plan fixe où ça bouge pas, mais voilà, l'étalonnage, on peut faire l'étalonnage avec un fichier en 520p, ça n'empêche pas. C'est, voilà, donc tout ça, c'est beaucoup plus important, je trouve, que juste le nombre de pixels. Maintenant, le nombre de pixels peut avoir son importance dans certains cas, dans certains choix. Si on dit beaucoup dans l'animalier, je reprends toujours l'animalier parce que j'étais dedans pendant 3 mois, mais on a des très longues focales, des objectifs qu'on cherchait très loin. On a tourné en 4K. On pourrait se dire aussi, si on avait des objectifs qui allaient chercher moins loin, on pouvait tourner par exemple en 8K et cropper derrière en poste. Ça peut être un intérêt. Ça peut avoir son intérêt. Maintenant, il faut juste savoir où ça se place. Nous, ça n'avait pas d'intérêt pour nous d'aller filmer plus haut dans les cas, en résolution, parce que nos longues focales avaient déjà trop d'effet de chaleur. Donc, ça ne servait à rien d'aller cropper derrière parce que l'image était détériorée, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de rester sur du 4K, parce que nos longues focales, en fait, à fond de longues focales, on avait déjà une qualité qui était limite pas exploitable.
Quand tu parles d'effet de chaleur, c'est les vagues de chaleur, parce que tu es en plein milieu du désert. Et...
C'est ça. Donc en fait, on avait très rapidement ces vagues de chaleur et un animal qui est à 400 mètres, même si on peut le filmer avec nos objectifs, il est brumeux, quoi. C'est dans la brume, on distingue mal. Donc il fallait de toute façon que l'animal soit pas trop loin et donc que nos longues focales, ça sert à rien de cropper derrière.
Complètement, je comprends. Ouais. C'est logique. Ouais. Du coup, sur tous ces tournages, est-ce que sur ce dernier, par exemple, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose qui t'a marqué un petit peu sur celui-là ou sur d'autres ?
Alors, sur le dernier, tous les tournages ont plein d'anecdotes différentes et ont plein de choses intéressantes à raconter à chaque fois. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure. Donc forcément, j'ai envie de te raconter pour moi ce qui, dans mon esprit, ce qui reste une de mes meilleures expériences de tournage. C'est peut-être purement au niveau des sensations. Et en fait, c'était un tournage en Alaska où vraiment une journée parfaite. On faisait de l'hélico, on se faisait déposer sur un glacier pour aller faire de l'escalade de glace au milieu du glacier avec l'animateur et tout. C'était vraiment une super journée, un tout petit hélico, donc il fallait faire plusieurs rotations. Et c'était la fin de la journée, tout le monde rentrait, on est resté, moi, un autre collègue et l'ingénieur du son sur le glacier, à attendre en fait la rotation de l'hélico qui allait venir nous chercher. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé seul sur cet immense glacier tout plat en Alaska, tombé du jour, il était 23h, mais vu que la lumière ne tombe pas, donc c'est un temps en été, donc il y avait encore des très belles lumières. Et on attendait, on avait bien 45 minutes ou une heure d'attente, parce que c'était long à faire la rotation aller-retour. Et on s'est mis une petite musique sur une enceinte, et puis on a sorti un téléphone, on a fait une petite vidéo, une petite choré sur les Beach Boys, en plein milieu du glacier en Alaska. C'est aussi pour ces moments-là qu'on fait du tournage. C'est parce que derrière, il y a une équipe, il y a une ambiance, on s'amuse aussi en dehors des périodes où on tourne. C'est vraiment un super souvenir.
Ça me rend jaloux, directement.
Je peux comprendre, ouais. Après, c'est important de dire aussi que ça ne vient pas sans prix. C'est-à-dire qu'on part beaucoup, on est souvent en déplacement. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille. C'est des choix qu'on fait qui sont de réduire certains aspects pour gagner autre chose. Quoi. C'est sûr que la vie de famille, c'est faut faire la balance, d'autant ouais. plus quand il y a des enfants.
Ouais, globalement, je pense quand on est intermittent, enfin, t'es intermittent ouais. du spectacle aujourd'hui, quand on est intermittent du spectacle, un peu dans tous les domaines, hein, que ce soit HMC, oui. lumière, vidéo, théâtre, même les comédiens, ouais. le théâtre, la musique, etc. On part sur des projets qui vont faire un à trois mois, voire des fois même plus.
Ouais.
Et bah, comme toi, à l'étranger. Et donc, du coup, bah, pendant tout ce temps-là, on est loin de la famille, on c'est est loin ça. Un peu de ses proches. Donc, ça ne doit pas être simple de balancer entre cette passion du voyage et des tournages qui te... Enfin, voilà,
non, ouais, c'est pas simple. Et c'est vrai que des fois, on refuse des projets hyper intéressants parce qu'on se dit, bah non, là, ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre. Pour moi, la partie tournage est aussi importante que la partie retour. J'ai besoin des deux côtés. L'un va pas sans l'autre. J'ai essayé à un moment de prendre un CDI comme tout le monde ici. Ça a marché 6 mois et en fait, au bout de 6 mois, je me suis dit non, faut que j'arrête et que je recommence à faire ce que je fais.
Faut que je reparte.
mais les deux côtés, je pourrais pas faire 100% de voyage. Je pourrais pas partir toute l'année à l'étranger, faire des films aussi bien qu'ils soient. Ouais, j'ai vraiment besoin des deux. Je pense que c'est un bon équilibre à trouver. Ces dernières années, je m'en sors pas trop mal personnellement, mais c'est vrai qu'il faut. C'est pas facile.
Ouais, j'imagine. C'est quoi la durée à peu près des tournages sur les docus sur lesquels tu pars?
Ça varie. On va dire que les plus petits, c'est une dizaine de jours minimum. Bon, en règle générale, on est plutôt autour de 20 jours, mais ça peut monter jusqu'à ouais, 50, 60. C'est vraiment à géométrie variable en fonction du projet, du sujet. Forcément, l'animalier dure beaucoup plus longtemps que le reste.
Ah bah, j'imagine.
Souvent. Si ce n'est pas plusieurs petites équipes qui font, mais si c'est qu'une seule équipe, c'est souvent plus long. Et après, il y a des documentaires qui se font très vite. Ça dépend des sujets.
OK. Et on parlait des anecdotes. Là, tu nous as raconté l'une des plus belles histoires. Je pense que au niveau des sensations, je pense que c'est difficile de la battre, très clairement. Pendant les anecdotes qui te sont arrivées, moi, je pense tout de suite à Pékin Express parce que je me dis, quand d'un point de vue logistique, tu as des cadreurs qui courent dans tous les sens avec 15 kilos de matos sur l'épaule. J'imagine qu'il doit arriver des galères sur ces tournages-là.
Oui, bien sûr, des galères, ça fait partie, c'est presque quotidien sur un tournage où on a 7, 8, 9 équipes qui sont un peu éparpillées. Il y a voilà, des galères de matériel, on en a parlé, c'est du matériel à ramener en urgence à un endroit parce que l'optique a pris la flotte ou parce que la caméra ne démarre plus, parce que les batteries sont mortes, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Il y a aussi des galères un peu plus humaines, des accidents de la route, ça arrive. C'est d'ailleurs un des principaux dangers en fait, de notre métier, c'est l'accident de la route, parce qu'on fait beaucoup de routes. En Arabie Saoudite, on a fait 20 000 km en 4 mois. Donc voilà, Pékin, c'est en cumulé avec toutes les voitures, c'est encore plus. Donc il y a beaucoup de routes, des accidents, ça arrive. Il y a aussi des fois quelques incompréhensions avec les locaux. Ça se passe en général plutôt très très bien. Mais voilà, il y a toujours des petites incompréhensions culturelles ou alors des malentendus qu'il faut désamorcer. Ça fait partie du métier, ouais.
Et je reviens un peu en arrière, mais je pense sur la partie documentaire animalier. Il y a une question que je me pose. C'est, par exemple, les journalistes qui partent à l'étranger pour faire des documentaires. Bon, là, je pense aux reporters de guerre en ce moment.
Ouais.
Même en dehors de la guerre, quand on part dans un pays étranger, on a souvent ce qu'on appelle un fixeur avec soi pour se faire guider, etc. Dans le monde animalier, comment ça se passe quand tu pars là en Arabie Saoudite? Est-ce que toi, c'est toi en amont qui bosse pendant ou avec le Réal pendant des heures et des heures sur à quel endroit il va falloir aller pour rencontrer tel type d'animaux, etc. Ou est-ce que tu as quelqu'un spécialiste?
Alors, ça dépend. Enfin, sur tous les tournages, il y a forcément une préparation. Les documentaires, en général, effectivement, il y a un fixeur sur place qui va déjà les demandes d'autorisation. C'est une partie importante des tournages. Qui va voilà, caler le planning, qui va aussi faire traducteur pendant le tournage, parce que souvent, les gens ne parlent pas forcément anglais, ni français. Pour parler du dernier tournage sur l'Arabie Saoudite, il y a eu aussi, de la part de Fabien, le réalisateur, quasiment un mois de repérage, séparé en deux, pour les deux parties du tournage, parce qu'on s'est arrêté au mois de décembre. Mais oui, il a fait quasiment un mois de repérage, où il est passé par tous les lieux sur lesquels on avait tourné. Il a fait des choix, en se disant « ce lieu n'est pas terrible, ce lieu est mieux ». Là, c'est très beau, l'arrière-plan, mais il n'y a pas beaucoup d'animaux. Alors que là, il y a plus d'animaux, mais l'arrière-plan est moins joli. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, c'est des choix en amont.
Et ça c'est surtout Fabien, donc le réalisateur, qui a fait ce boulot de préparation.
En fait, ça dépend des tournages. Sur des émissions type Échappée Belle, ça se fait depuis Paris, ça se fait depuis les bureaux, où effectivement, ils prennent contact avec un fixeur local. Mais c'est un peu du repérage Internet, si j'ai envie de dire. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas bossé pour eux, mais je suppose que c'est fait toujours comme ça. Là, sur le tournage en Arabie Saoudite, Fabien a fait un gros repérage. C'est les deux manières de faire. Soit on prépare tout depuis un ordinateur avec un fixeur sur place qui va vraiment aller repérer et faire des comptes rendus. Soit on va directement sur place avant le tournage pour se faire une idée.
Et alors, quand on parle de fixeurs dans le documentaire animalier, c'est des réalisateurs, des chefs-op comme toi, ou c'est plutôt des spécialistes
fixeur,
de la faune et la flore locale?
Alors, un fixeur, c'est vraiment le facilitateur sur place, quoi, le mec qui va gérer tout l'aspect administratif et aussi l'aspect logistique sur place. Là, en l'occurrence, pour l'Arabie Saoudite, on était embauché par une prod locale. Donc, c'est eux qui sont occupés de toute la partie locale. C'est rarement le cas, mais souvent, les gros projets comme Pékin Express, par exemple, font appel à une production locale qui va, elle aussi, aider à faciliter les chauffeurs, les voitures, les autorisations. Après, dans le documentaire animalier, c'est toujours mieux si on arrive à rencontrer des scientifiques ou des gens qui bossent vraiment, des spécialistes des espèces qu'on va filmer. Là, en l'occurrence, en Arabie Saoudite, il n'y en a pas, ou très peu, parce que c'est très peu étudié et il y a très peu d'animaux, donc on n'en avait pas. Ça nous aurait bien servi. Mais donc dans ce cas-là, on est vraiment un peu livré à nous-mêmes. Quoi. On sait que là,
comment tu fais dans ce cas-là? C'est tes recherches personnelles, c'est le mois de repérage.
C'est les recherches de Fabien qui a travaillé depuis longtemps sur a préparé le tournage avant d'y aller, qui a fait le repérage et qui va nous dire donc dans cette région-là, sur telle plage, on sait que il y a des tortues qui viennent la nuit pondre et en même temps il y a des éclosions de bébés tortues, des premiers œufs qui sont là. Donc on va passer du temps sur la plage la nuit à écouter, à savoir quand une tortue sort de l'eau pour aller la filmer quand elle pond et puis essayer de trouver quand le sable se soulève un petit peu et qu'il y a les bébés qui sortent. Voilà. Donc ça c'est nous, on est sur place et on regarde, on observe, on écoute et on essaye de trouver. C'est de la chasse avec une caméra. Voilà,
avec
une caméra à la place du fusil, c'est quand même bien mieux.
Là, c'est quand même plus sympa.
C'est ça.
C'est quand même complètement... Moi, je trouve ça complètement dingue, tout ce côté animalier. Ça demande une patience extrême.
Oui, une préparation, beaucoup de patience sur place. Après, ça dépend. Des fois, on a des super surprises. Des fois, ça arrive... tout de suite, enfin, ou alors on voit quelque chose depuis la voiture, on se dit tiens, c'est maintenant, ça arrive maintenant, faut vite le faire, mais c'est souvent de l'attente.
Là, sur ce dernier-là, et puis sur les autres, tu fais souvent des making-of, parce que c'est quand même des prods qui doivent être
Enfin, moi, j'ai eu très peu de making-of autour de moi dans mes projets. Là, il y en avait un.
Okay.
Qui était fait par un local qui nous accompagnait, un petit jeune. Ça aussi donne l'occasion. C'est quelque chose qui est assez important pour moi, en plus, dans mes projets. C'est, j'aime bien transmettre. J'aime bien prendre quelqu'un par la main, lui montrer, essayer de transmettre un peu de ce qu'on m'a donné aussi. Donc là, on avait un jeune Saoudien qui nous a suivi avec un Alpha 7S, du coup, un petit boîtier. Mais qui... c'était très bien pour un making-of. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il n'est pas encore monté.
Est-ce que lui, du coup, ça va lui permettre aussi de voir un petit peu toute la technique que vous allez employer?
Ouais,
j'ai vu sur certaines des images que je trouve assez incroyable, c'est que, je ne sais plus si c'est toi, mais il me semble que c'est toi qu'on voit au milieu du désert avec un trépied, un slider énorme. Et c'est vrai que tu ne t'imagines pas forcément que tu pars au milieu du désert avec un slider de 1m50.
Non, sachant que ça, c'était pour faire un plan de sable qui se fait pousser par le vent sur les dunes. Enfin, c'est pas, pour le coup, ça, c'est de la partie naturelle. Mais on imagine rarement ce qui est mis en place derrière un plan. Pour faire un plan qui semble assez simple, il faut monter en 4x4 sur une dune de 150 mètres de haut, arriver, machin, il y a du vent, il y a beaucoup de vent à cet endroit-là, sortir le slider dans le sable, avec les caméras dans le sable. Et puis
tout ce que les loueurs adorent.
Tout ce que les loueurs adorent. Mais d'ailleurs, ils nous ont écrit un petit message quand ils ont vu qu'on avait mis la Vénice à 3 cm de l'eau.
Ah, c'est vrai qu'il y a une photo où le cadre est vraiment de l'eau.
Ils nous ont écrit un petit message en disant j'espère que c'est pas de l'eau de mer. Si, en fait, mais on a nettoyé après. Il faut faire ce qu'il faut, mais c'est vrai que pour un plan tout simple, petit slider avec du sable qui vole au-dessus de la dune, il faut faire tout ça, et ça met des fois trois quarts d'heure, une heure pour ce plan qui est pas forcément ni essentiel ni mais qui va juste donner une sensation, peut-être essayer de retranscrire un petit peu ce qu'on a vécu. C'est des émotions, tout ça, c'est ce qu'on vit, qu'on essaye de mettre en fait dans l'image pour retranscrire au mieux ce qu'on vit, en fait, sur le moment. Et moi, il me semblait important, à ce moment-là, de montrer qu'il y avait du vent dans le désert, que ça soufflait fort, qu'il y avait du sable qui volait partout. Et ouais, il fallait un slider.
Du coup, la question, c'est par quel moyen technique tu vas pouvoir retransmettre cette émotion-là à travers les images Et ça, c'est sur le moment, tu vas te dire, OK, ben, il me faut ça, je vais le faire comme ça.
Ouais,
et...
c'est aussi, encore une fois, c'est une affaire de compromis. Là, on aurait pu faire un peu, enfin, on en a fait d'ailleurs, slow-mo, plan de sable qui vole depuis la dune, plan fixe ou un petit panneau. Sur le moment, on avait le temps. Je me suis dit, bah, tiens, on va le faire au slider. Et je pense qu'il sera dans le film parce qu'il est bien en plus.
Tant mieux. Et justement, tout à l'heure, quand tu parlais de travailler avec Gavin, ouais. Qui était du coup le chef-op sur ce projet-là, enfin, qui était l'un des chef-op, le chef-op.
On était deux équipes, en fait, on avait une équipe anglaise et une équipe française. On était donc deux chef-op, okay. Avec Fabien qui aussi, lui, est chef-op aussi à côté. Enfin, voilà, il est réalisateur et chef-op. Donc, c'était vraiment un travail mutuel.
C'est un travail commun, ouais. OK. Donc, du coup, avec Gavin, avec qui tu as bossé comme chef-op sur ce projet-là, tu parles des conseils qu'il t'a donné un petit peu. Est-ce que tu peux nous dévoiler un des tips qu'il t'a donné ou
En fait, c'est difficile. En fait, à chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était un peu... on apprenait... Donc là, comme ça, en ressortir un...
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ses conseils?
Non, ce qui m'a marqué, c'est la manière qu'il avait d'expliquer. Par exemple, on était sur une falaise où il y avait des vautours. Et en fait, il avait cette manière de dessiner en fait, au sol, à chaque fois, les plans, mais de manière très simple, dans le sable, en fait, avec le doigt. Et on traçait dans le sable, en fait, les différents plans, en disant « Ah oui, on peut faire ça comme ça, on peut avoir ça. » Et ouais, c'était le plus efficace, en fait. Voilà, on fait un dessin, toujours plus efficace que...
Pas de fioritures et...
Ouais, c'est voilà, tac-tac, l'animal, il prend ça, là, on a la tête, là, on a les ailes, et puis après, on peut faire un truc comme ça, on les voit pivoter au-dessus du pylône. Enfin, c'est très efficace, voilà. C'était l'efficacité. Ouais, le mot qui me vient pour Gavin, c'est efficacité.
Ah, parce qu'il faut être, en fait, très efficace dans ce domaine-là, parce qu'en fait, t'es face à l'imprévu, où là, tu parles des vautours. Donc, le vautour, peut-être qu'il va descendre un coup, se poser ici. Et puis, en fait, la seconde d'après, il va pas du tout faire le même mouvement.
Exact.
Quoi,
surtout, l'animalier, c'est beaucoup d'attentes. Et ça arrive une fois. Enfin, des fois, ça n'arrive qu'une fois. Donc, c'est beaucoup d'attentes. Des fois, pour un plan, si on le rate, ben, il faut réattendre. Donc, il faut être efficace. C'est vraiment, il faut savoir tourner au bon moment et avoir l'action quand elle se passe. Et c'est là où l'expérience prend le dessus, c'est qu'il faut pas rater le moment. Voilà. C'est souvent comme ça dans beaucoup de tournages. Mmh. Mais là, on peut pas refaire.
Ouais, non. Là, ça paraît compliqué. Et alors, justement, sur les... tout à l'heure, on parlait des équipements. Donc là, on parlait du désert pour filmer le mouvement du sable avec le vent. Donc, des moyens techniques que tu déployais pour faire ce mouvement-là. C'est quoi les moyens techniques les plus dingues que tu as dû déployer?
Les plus dingues, je pense que deux vénisses au milieu du désert et des sliders, c'est déjà pas mal. On est déjà à un bon niveau. Après, en moyens techniques, on a eu l'hélico, quand je disais de l'Alaska, voilà, des fois on prend des hélicos pour filmer depuis l'hélico. J'avais fait ça aussi dans les Alpes, sur Mont Blanc. Et donc l'hélicoptère, c'est toujours un moment un peu...
Du coup, sur les hélicos, tu pars avec une caméra qui est montée là, pareil, sur un easy rig, ou alors c'est avec des caméras qui sont...
Alors ça dépend, j'ai fait des tournages vraiment à l'hélico, ouais. Où j'avais juste une caméra dans la main, on ouvre la porte et puis tu filmes par la fenêtre. Au Mont Blanc, ça fait très très froid sur les mains quand même. Mais après, oui, l'hélico, on a aussi des stabilisateurs qu'on peut mettre par la fenêtre, par la porte aussi. Et après, moi, personnellement, j'ai jamais fait, parce que c'est vraiment un domaine qui est assez spécifique. Mais oui, les Cineflex et autres GSS, c'est quelque chose que je pense que je vais rapidement développer, j'espère. J'aimerais beaucoup faire ça.
Il faut se trouver le projet qui demande ça.
Ouais, mais c'est... Maintenant, les GSS et tout ça, c'est très utilisé, notamment dans les animaliers, mais dans plein de choses, parce que c'est relativement facile à mettre en place. Attention, il faut bien connaître, mais c'est quand même... c'est des outils absolument fantastiques. On met des grosses caméras dessus. Et certes, ça se met sur un hélico, mais ça se met sur un 4x4, ça se met sur une moto, ça se met sur plein d'autres trucs. Et je pense que c'est un outil qui va vraiment se développer par l'avenir et je vais vraiment essayer de pousser ça maintenant.
Et alors justement, là, vu qu'on parle d'hélico, moi, ça me fait penser un peu au drone.
Ouais.
Et on peut se poser un peu la question aujourd'hui, à quel moment on se dit, OK, ce plan-là, il nous faut un hélicoptère, ou ce plan-là, bah, au final, on pourrait le faire assez simplement au drone. Et
pour moi, aujourd'hui, la seule raison d'utiliser un hélicoptère pour du tournage, on va dire, simple. Hein. Effectivement, fiction, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on utilise un hélicoptère, mais il y a un, l'altitude à laquelle on peut aller, et évidemment, deux, la vitesse. Un hélicoptère sera bien plus rapide qu'un drone, et ça apporte pas les mêmes images, pas les mêmes contrôles non plus. Maintenant, c'est vrai que en Arabie Saoudite, j'avais un Inspire 2 avec X7, tout le kit complet du drone. Ça rend quand même des images d'une qualité assez bluffante. Quand on est en ciné DNG, enfin, c'est quand même 25 photos RAW la seconde. C'est bluffant. On peut prendre n'importe quelle photo c'est un RAW d'un appareil photo. C'est vraiment impressionnant. Donc, en termes de qualité, on n'est quand même pas trop mal sur le drone. Maintenant, j'ai vu mes limitations au drone. Des fois, je me suis dit, bah oui, j'aimerais bien traverser la chaîne de montagne. La portée, important, la portée aussi, parce que le drone est limité en portée. L'hélico, on peut vraiment aller loin. Donc, c'est pas pour le même type de plan. Ça reste des images aériennes, mais je pense que c'est assez complémentaire dans l'utilisation.
Ok. C'est, ouais.
Mais le drone, c'est un outil fantastique. C'est aujourd'hui, c'est indispensable. Dans tous les programmes, il y a du drone. N'importe lequel, honnêtement, je pense que 90% des programmes.
C'est quelque chose de commun.
C'est commun, ça fait toujours le même effet, on s'en lasse pas. C'est des images aériennes, ça aère, ça donne tout de suite la description du lieu, ça situe, ça aère, ça met de la poésie, c'est super.
Et puis ça donne un point de vue qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir. C'est quand même assez bluffant.
Que nous, humains, on est collés au sol, ouais, c'est sûr.
Malheureusement, ouais.
C'est ça.
C'est bluffant, moi, ça me fait halluciner à chaque fois.
Non, puis moi, c'est vraiment une des rares. Enfin, à la caméra, ça arrive plus rarement, mais au drone, des fois, je filme, je fais le plan, c'est moi qui le fais, hein. Je me dis, voilà, qu'est-ce que c'est beau, mais c'est super, ce plan, il est incroyable. Je le dis rarement quand je suis à la caméra, parce que je suis... Voilà, mais là, des fois, quand je vole, c'est presque comme si c'était pas moi qui faisais le plan, quoi. Je m'extasie sur les plans que ça sort, quoi.
Il y a un plan qui t'a marqué particulièrement, que ce soit au drone ou à la caméra, mais il y a un plan sur un de tes projets qui t'a marqué particulièrement?
Il y en a beaucoup. Là, pour reprendre que le dernier projet, je pense que c'est... Ouais, c'est celui qui m'a fait vraiment de l'effet, c'est le gros plan de la tête du léopard d'Arabie, qui a un visage, enfin une expression qui est puissante, enfin comme tous les fauves en fait, hein, mais c'est vrai que celui-là, il était fort, il était très fort.
Ça, c'est du coup de l'animal à ce moment-là, il y a combien de mètres de l'équipe?
Alors là, c'était pour la partie du documentaire qui sont en semi-captivité, parce qu'il n'existe plus dans la nature.
Ok.
Il y a des centres de réintroduction, des centres de reproduction surtout, qui essayent de réhabiliter, de remettre en fait un certain nombre d'individus, déjà d'avoir un certain nombre d'individus, pour ensuite pouvoir les relâcher dans la nature. Ça arrivera pas avant 20 ou 30 ans, parce qu'ils sont quasiment éteints. C'est simple, dans le parc où j'étais, j'avais devant moi 30 ou 35% de la population mondiale, et il y en avait 16. Donc voilà. C'est ces petits moments aussi privilégiés qu'on a en tournage. On a accès à des lieux où même si on y allait en touriste, on n'aurait pas accès. On a accès à des petites merveilles, quoi, des trucs très privilégiés. Et ça, c'en était un. Ouais.
Putain, ça doit être ouf.
Ouais, c'était dingue.
Ça doit vraiment être dingue. Bon, la question de qu'est-ce qui a été ton plus gros défi en tant que chef-op sur des documentaires animaliers, mais bon, on est un peu passé dessus, je pense,
ouais,
avec les différentes questions, ça va être un peu rébarbatif.
Puis il n'y en a pas vraiment, en fait. Je suis arrivé... Enfin, moi, j'ai du mal à mettre...
Tout est simple.
Non, au contraire, mais justement, il y en a eu tellement des galères. Mais j'ai du mal à mettre le barème. C'est comme quand on me demande quel est le plus beau pays où tu as été. En fait, moi, je commence à en avoir un certain nombre. Je peux pas... je peux dire le plus beau désert où j'ai payé des articles où j'étais. La Namibie, ça m'a fait beaucoup d'effet. Le paysage un peu de montagne, l'Alaska peut-être. Enfin voilà, on peut pas donner le plus. Voilà,
ouais, ça
on
pas,
peut pas
ça
choisir.
Pas de sens,
en fait. Quand on en a vu suffisamment, je pense qu'on peut plus mettre les classer.
Il y a plus de classement. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un truc, moi, l'animalier. C'est vraiment. Si je pense que si j'avais pris cette voie-là, j'aurais adoré. C'est.
Moi, j'en ai pas fait beaucoup.
Ouais.
Du coup, enfin, j'espère en faire de plus en plus. Mm. Mais parce qu'en France, il y a très peu de production animalière. En fait, ouais, il y en a peu. Par rapport à ce qu'il y a eu, il y en a peu. Et par rapport à ce que font les Anglais, il y en a très peu. Et donc, c'est vrai que les places sont relativement chères. Les projets ne sont pas tous des gros projets. C'est souvent même des petits projets. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre... Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile en France de vivre uniquement de l'animalier.
Et alors, du coup, comment on fait pour se faire une place dans le monde de l'animalier? Comment toi, tu as fait, en tout cas?
C'est des rencontres. C'est par hasard. Et puis voilà, de l'animalier, j'en ai pas fait pendant longtemps. Il y a eu vraiment une grosse période où j'ai fait complètement autre chose. Et je pense que il faut que je continue à faire autre chose. Je fais du programme, Pékin Express ou autre, ou même d'autres émissions, plus de flux, Top Chef. Je fais du documentaire aussi à côté, différent. Mais pour vraiment faire 100% d'animalier aujourd'hui en France, c'est compliqué. Ouais. C'est un petit milieu, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il n'y a pas beaucoup de projets.
Et c'est quoi qui explique ça? C'est les diffuseurs qui sont moins intéressés?
Je pense que oui, les diffuseurs sont toujours aussi intéressés, mais par exemple, France Télévisions achète beaucoup de programmes à la BBC. Il y a des très très beaux programmes qui sont achetés aux Anglais. Je pense que la force des Anglais, c'est qu'ils produisent en anglais. Donc, ils ont un panel de pays qu'ils peuvent acheter derrière, vraiment énorme. Nous, on y est venu tard, en France, à la production en anglais, au doublage anglais, on y est venu assez tard. Et maintenant, les Anglais ont acquis un savoir-faire qui est vraiment important. Et aujourd'hui, ce qu'ils produisent, c'est colossal. Enfin, les budgets, je pense honnêtement qu'on ne peut pas atteindre ce genre de budget en France sur un animalier.
C'est quoi une fourchette, ça représente quoi
C'est des millions d'euros. C'est des millions d'euros. C'est aujourd'hui, un Planet Earth, c'est 4 ans de production. C'est avec plusieurs équipes. Ils vont chercher les animaux où ils sont, c'est-à-dire qu'ils veulent aujourd'hui des girafes. Ils vont dans le meilleur parc animalier pour filmer les girafes, pour l'histoire qu'ils veulent. En France, on ferait plus ou moins pareil, mais les budgets sont bien inférieurs.
On ferait ça sur 6 mois.
Ouais, avec une équipe. En fait, en France, on a aussi une tradition de fonctionner avec une seule équipe. Une équipe qui fait tout, donc des tournages plus longs pour tout le monde. En Angleterre, c'est plus fractionné. Chacun fait sa séquence et ensuite, c'est un assemblage.
Et qu'est-ce que ça apporte de travailler comme ça? Enfin, ça a un avantage particulier ou
c'est un avantage que je pense que le nombre de techniciens déjà disponibles pour aller tourner 3 semaines est beaucoup plus gros que le nombre de techniciens disponibles pour aller tourner 6 mois. Donc, on peut plus choisir les forces de ces techniciens aussi en fonction des séquences qu'il y a tournées parce que c'est plus réduit. Ensuite, ça va aussi un peu plus vite, même si c'est des productions très longues dans le temps, mais ça va quand même un peu plus vite à tourner parce qu'on peut envoyer plusieurs séquences d'un coup. Mais encore une fois, on fait pas la même chose. On n'a pas du tout le même style. C'est très descriptif, très comportemental. Nous, on est vraiment dans des films. Donc, okay. C'est pas pareil.
Du coup, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui aujourd'hui souhaiteraient se diriger vers le documentaire, que ce soit en tant que chef opérateur ou réalisateur, mais surtout chef opérateur, parce que c'est ce qui te concerne?
Alors déjà, peut-être de ne pas faire comme moi, parce que j'ai eu beaucoup de chance, et voilà, je le réalise encore tous les jours, mais c'est peut-être la voie la plus incertaine. C'est hyper intéressant parce qu'on démarre tôt, on est vite sur des tournages, on est vite dans le dur du travail. En plus, on gagne de l'argent hein, par rapport aux études, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est incertain, parce qu'il faut avoir de la chance, mine de rien. Voilà, faut savoir travailler, savoir faire un réseau, être bon dans ce qu'on fait, je pense. Mais c'est incertain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'écoles, un certain nombre de formations qui permettent déjà d'apprendre beaucoup de choses. Faut quand même leur rendre ça. Ça reste important. Donc, quelqu'un qui vraiment part de zéro, je dirais, essaye d'abord d'aller dans cette voie. Parce que l'école va aussi apporter un réseau, mine de rien. Si on part vraiment de quelqu'un qui n'a pas du tout de connaissances dans le milieu, l'école va permettre de se créer un réseau qui, derrière, va être très diversifié parce que sur une promo de 20 ou 25, ça va aller un petit peu partout. Donc, on aura quand même un réseau qui va pouvoir jouer derrière. Maintenant, je pense qu'il faut être sûr aussi d'aimer ça. Faut vraiment, passion, c'est un mot assez important. Moi, j'estime être passionné par ce que je fais, mais je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est parfois un petit peu surfait. Enfin, c'est un mot qui est quand même fort, mais je pense qu'il faut vraiment avoir envie, être intéressé, savoir toujours essayer d'aller chercher un petit peu plus, de comprendre comment c'est fait un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on veut et dans ce qu'on a envie d'apprendre. Pour moi, c'est un apprentissage tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Chaque jour de tournage, on apprend quelque chose. Donc ça, faut aimer ça, faut aimer apprendre. Après, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de voie facile, voilà, c'est pas faites ça, tu finiras chef op.
Évidemment.
C'est une envie et un peu de chance.
Ok. Et du coup, pour aller sur la partie animalier, qui est vraiment la partie qui, toi, te passionne pour le coup, donc on parlait de passion, en tout cas que t'affectionnes le plus.
Ouais, ouais. Non, oui, non, mais c'est vrai, non, mais complètement passionné, hein, ça c'est bon, sûr.
J'étais en train de dire merde.
Complètement. Non, c'était juste que pour aller dans l'animalier, c'est encore plus compliqué.
Ouais, c'est ça, c'est que là, on arrive dans une branche du documentaire où il y a vraiment pas beaucoup de place, même
pas de place du tout. Il y a une école du cinéma animalier qui est à Poitiers, qui forme une dizaine de personnes par an, je crois, aux dernières nouvelles. Donc, il y a une formation qui existe pour ça. Maintenant, est-ce qu'il y a les places derrière? Est-ce qu'il y a les projets derrière? Est-ce que les chaînes créent du contenu suffisant pour tous ces gens-là? Je pense que déjà, pour 10 personnes par an, c'est déjà compliqué. Et pour toutes celles qui arrivent en plus sans faire cette école-là, c'est encore plus compliqué. Donc, moi, je pense qu'il faut... Le travail de la caméra, que ce soit en animalier, que ce soit sur des programmes de flux, il n'y a pas de programme pas intéressant à faire. Tous les programmes vont avoir un intérêt, que ce soit au minimum sur la technique. Moi, je m'y retrouve sur plein de programmes parce que je suis sur la technique et ça m'intéresse et j'apprends plein de trucs. Évidemment que je préférais faire de l'animalier tout le temps. Mais au final, on s'y retrouve quand même sur n'importe quel projet sur lequel on va travailler. Il faut essayer de trouver notre intérêt et d'essayer de progresser en fait sur, sur la technique, sur la mise en image, sur la composition. On va toujours apprendre des gens qui seront autour de nous, quoi.
Super. Et est-ce que, pour terminer, une dernière question, est-ce qu'il y a une règle d'or quand on est chef-op en documentaire et surtout en documentaire animalier? Est-ce qu'on a une règle d'or bien précise?
Pas passer devant la caméra.
C'est bien vu.
Voilà.
C'est bien vu, ouais, c'est clair. Après avoir attendu 5 heures que le léopard arrive, ne pas faire... Attends, il y a une miette sur l'écran, là, sur la lentille. Ah putain, ça serait terrible, ça.
T'imagines?
Non, t'as jamais fait de bourde comme ça, quand même?
Oh, j'en ai fait, si, des bourdes. Ouais, non, mais des doubles recs. Ce qu'on appelle les doubles recs, c'est quand on pense pas tourner. Et quand au moment de tourner, on appuie, en fait, on coupe le rec. On en fait tous. Voilà. Mais ça nous énerve plus nous-mêmes que ça énerve les autres gens. Mais c'est... Voilà, dans ces moments-là, on sent très bête, très très bête. Et ouais, non, des bourdes, on en fait tout le temps. Puis je suis sûr que j'en ferai des doubles règles, je suis sûr d'en faire d'autres. Hein. Ça, c'est, voilà.
C'est ça fait partie du métier.
Ça fait partie du métier.
Ah ouais, c'est ça. C'est,
on peut pas réussir tout le temps. Comme dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle situation, il y a forcément des moments où on rate des choses. Ben, c'est pareil à la caméra. On va rater le moment, on va pas déclencher à temps, on va rater un truc technique, on va mal faire la balance des blancs, on va rater un plan. C'est normal. Du déchet dans les plans, il y en a plein. On tourne 30 ou 40 heures pour faire une heure de programme à la fin. Donc, ça veut dire qu'on jette 80% des rushs. Donc, ils ne peuvent pas tous être bons.
Bah, merci beaucoup, Julien.
Je t'en prie.
Merci d'avoir passé ce temps avec nous pour nous parler de ton métier. Les gens peuvent te retrouver sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, depuis pas longtemps. Hein.
Depuis pas longtemps.
Je me suis mis récemment.
Super. Ton compte, c'est julien.fèvre. Sur c'est Instagram, on le mettra sur les différentes pages de nos réseaux. Il y a plein de belles photos de tes tournages à voir et de tes vacances aussi, sûrement.
Oui, sûrement. Il y en a quelques-unes.
En tout cas, merci beaucoup et je te dis à très vite.
Ouais, à très vite.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'histoire de Julien vous a inspiré et vous a fait découvrir de nouvelles choses sur l'audiovisuel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, mais aussi à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify en nous indiquant ce que vous avez préféré dans l'épisode. Cela nous aide à faire connaître le podcast, mais surtout nous donne de la force pour continuer cette aventure. À très bientôt !